Tous ceux qui ont tant soit peu suivi un cours de catéchisme ou l'école du dimanche savent que Moïse fut sauvé des eaux, mais aussi qu'il était un berger, qu'il fut un berger qui un jour en plein désert a été confronté à un prodige. Il a vu un buisson tout embrasé qui ne se consumait pas. Alors bien entendu, il a voulu voir ce phénomène, il s'est approché quand soudainement une voix venu de nulle part, lui a dit, n'approche pas d'ici, enlève tes sandales, car le lieu où tu te tiens est sacré. C'est un peu pareil pour certaines portions des Écritures, car elles donnent au lecteur le sentiment qu'il se trouve en territoire sacré. Le psaume 22 est l'un de ces textes qui inspirent une profonde révérence. C'est une longue intercession qui fut composée par le roi David, mais on ne connaît pas du tout la circonstance qui l'a motivé à faire cette prière, qui correspond à la persécution extrême qu'il décrit. En fait, le psalmiste David parle d'une expérience et d'une exécution qui ne peuvent pas lui correspondre et qui donc correspondent à quelqu'un d'autre. En effet, la personne de David disparaît dans ce psaume dans le rayonnement de ce quelqu'un d'autre, dans le rayonnement d'une gloire d'un autre lui-même qui doit naître de sa lignée et que l'Éternel appelle son fils. Dans ce psaume, l'esprit prophétique prend pour point de départ une circonstance qui nous est inconnue, une circonstance extrêmement grave de la vie de David. Et l'esprit prophétique y puise les éléments d'un tableau qui dépasse de très loin les circonstances de David, les circonstances particulières que nous ne connaissons pas. Ce tableau est la description fidèle de ce qui s'est passé plusieurs siècles plus tard en la personne du Christ. C'est donc un psaume prophétique qui annonce la fin de vie de Jésus qui a été injustement condamné par les chef religieux, puis mis à mort par les Romains. Depuis l'Église primitive, les croyants ont discerné dans ce psaume la passion du Christ, révélée dans les souffrances exprimées par le psalmiste, et le Nouveau Testament et surtout les Évangiles font plusieurs fois référence au psaume 22. Cette longue prière a été appelée le psaume de la croix, parce que mieux que toute autre portion des Écritures, elle décrit avec une très grande précision la crucifixion de Jésus. Cette prophétie est à mettre en parallèle avec d'autres passages célèbres, comme le chapitre 53 du livre d'Ésaïe. Ce psaume ne contient aucun passage imprécatoire contre des ennemis, et pas la moindre confession de faute, de péché. La description qui est donnée de cette personne, qui est donc le Seigneur, est sa parfaite innocence. Jésus reste absolument sans faute, sans péché, dans sa relation avec Dieu, dans sa relation avec les persécuteurs, et face à lui-même, il ne s'apitoie jamais sur son sort. Le prophète Ésaïe écrit, on l'a frappé, il s'est humilié, il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas dit un mot. Alors que mon serviteur, le juste, n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient prononcé de mensonges. Les évangiles donnent le récit historique de Jésus depuis sa naissance jusqu'à sa mort, tandis que le psaume 22, c'est comme une radiographie de ses sentiments, de ses pensées, de son angoisse, alors qu'il est en train d'expier les péchés du monde. En devenant homme, le Seigneur s'est défait de sa gloire. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul. Puis, sur la croix, il s'est dépouillé de toute dignité humaine. Dieu plaça sur lui la totalité de la grâce de l'homme afin qu'il devienne le sauveur, le médiateur, le pont qui permet à celui qui a foi en lui, au croyant, d'accéder au royaume de Dieu. Psaume 22, dans l'édition du Semeur. Au chef de chœur, psaume de David, a chanté sur l'air « Biche de l'aurore, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tu restes loin, tu ne viens pas me secourir malgré toutes mes plaintes. Mon Dieu, le jour, j'appelle, mais tu ne réponds pas. La nuit, je crie sans trouver de repos. » Versets 1 à 3. Ce psaume commence de manière très violente. Quant au titre « Biche de l'aurore », c'est probablement celui d'un chant populaire sur la mélodie duquel ce psaume doit être chanté. Sur la croix a eu la séparation complète entre Dieu le Père et Dieu le Fils. C'est la seule et unique fois dans toute l'éternité qu'un tel événement a eu lieu. Il fallait que Jésus soit homme et chargé du péché du monde pour que cette rupture ait lieu. Jésus, depuis toujours, même avant qu'il devienne homme, a été en communion avec son Père. Même quand il a été trahi, lacéré de coups, même quand il a été cloué sur la croix, Jésus était en communion avec son Père. Mais à un moment donné, sur cette croix, Dieu l'a chargé de tous les péchés, de tous les hommes, de tous les temps, et il s'est détourné de lui. Jésus, alors, à ce moment-là, est devenu l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jusqu'à ce moment-là, Jésus n'a pas protesté, il a subi son calvaire sans maudire. Mais maintenant que la colère de Dieu est sur lui, il hurle à la mort, exprime la souffrance et l'abandon par Dieu son Père. Des tréfonds de son âme, il s'écrie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est une question curieuse. Ce pourquoi ne traduit pas l'impatience ou le doute. C'est un cri. C'est le cri terrifiant et désespéré. Il faut bien voir que sur la croix, Jésus est désespéré. À cause de sa souffrance indescriptible, la souffrance de l'innocent martyrisé, de la sainteté bafouée. Et son cri n'a eu pour réponse que l'écho faible de sa voix, parce que Dieu, son Père, l'avait vraiment et réellement abandonné. Il a souffert une mort sacrificielle pour chacun de vous et pour moi. L'enfant Jésus né dans ce monde est venu pour révéler Dieu, mais surtout et avant tout pour racheter l'homme, aussi également pour ravir à Satan l'autorité légale qu'il détenait sur l'humanité. Mais en menant une vie parfaite, Jésus ne pouvait sauver personne. Et Jésus parfait, à mener une vie parfaite, ça ne m'est d'aucune utilité. C'est seulement sa mort qui donne le salut à ceux qui croient en lui. Toute sa vie, Jésus faisait pleinement confiance à Dieu son Père céleste, mais sur la croix, à un moment donné, il a été rejeté par Dieu qui lui a littéralement tourné le dos. Je continue. Pourtant, tu es le Saint qui siège sur son trône, toi qui fais l'objet des louanges d'Israël. Verset 4. Le psalmiste et Jésus se rappellent que de tout temps, Israël, en tant que peuple de Dieu, a célébré la sainteté de l'Éternel, lui a rendu grâce pour ses actes de justice, pour sa miséricorde. Dieu ne peut donc pas se détourner d'un homme juste persécuté. Pourtant, Jésus a été totalement délaissé par Dieu parce qu'il a été fait péché pour nous. Dans son épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit « Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Il fallait que cette réconciliation ait lieu. » Je continue le psaume. « En toi déjà nos pères se confiaient, oui, comptaient sur toi et tu les délivrais. Lorsqu'ils criaient à toi, ils étaient délivrés. Lorsqu'ils comptaient sur toi, ils n'étaient pas déçus. » Versets 5 et 6. Dans l'histoire d'Israël, un grand nombre d'hommes pieux qui ont crié à Dieu ont été secourus d'une manière ou d'une autre. Mais ici, le psalmiste répète deux fois, il comptait sur toi, il comptait sur toi, pour souligner que d'une manière inexplicable, cette fois-ci, sur la croix, Jésus, la foi, n'a pas eu de réponse. Je continue. « Mais moi, je suis un ver. Je ne suis plus un homme. Tout le monde m'insulte. Le peuple me méprise. » Verset 7. Le ver est une créature laide, totalement dépourvue de moyens de défense. Il n'a aucune possibilité de réagir quand on l'écrase. Il est intéressant de noter que dans le texte hébreu, le mot pour ver désigne un certain ver, le coccus illicis. Or, c'est avec le corps séché de la femelle de cette espèce que les Juifs fabriquaient la teinture rouge qui servait à teindre couleur de sang les rideaux du tabernacle qui séparait le saint du saint des saints. C'est une sorte de rappel que selon les Écritures, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dans l'une des tragédies de Shakespeare, Lady Macbeth hante la nuit en frottant ses mains. À moitié folle car rongée par le remords du meurtre qu'elle a commis, elle dit alors « Tous les parfums d'Arabie n'adouciront pas cette petite main. » Elle a raison. Elle se lave continuellement les mains et en les frottant, elle crie « Maudite tâche, va-t'en, va-t'en, je te dis. » Même si personnellement je n'ai tué personne, je suis coupable de bien d'autres fautes. Or, seul le sang du Christ peut les effacer, rien d'autre. Ni des bonnes œuvres, ni nos rites religieux ne peuvent nous venir en aide. Seul le sang que le Christ a versé purifie le péché. Ceux qui me voient se rient de moi. Tous, ils ricanent, ont fait la moue en secouant la tête. Il se confie en l'Éternel, eh bien, que maintenant l'Éternel le délivre. Puisqu'il trouve en lui son plaisir, qu'il le libère donc. Versets 8 et 9. Non content d'avoir fait exécuter Jésus à l'aide de faux témoignages, les chefs religieux juifs ne le laisse même pas mourir en paix. Il faut qu'il vienne jusqu'au pied de la croix pour le narguer alors qu'il agonise. On ne peut pas descendre plus bas. Après avoir mordu sa victime et injecté son venin, le serpent se glisse dans l'herbe et disparaît. Mais pas les religieux juifs. Ils continuent à déverser le purin de leur cœur jusque devant la croix. Oui, c'est bien toi qui, depuis ma naissance, m'as protégé. Tu m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère. Dès mon jeune âge, j'ai été placé sous ta garde. Dès avant ma naissance, tu es mon Dieu. Ne reste pas si loin de moi, car le danger est proche et il n'y a personne qui vienne pour m'aider. Versets 10 à 12. La confiance touchante du nouveau-né qui s'abandonne à sa mère est représentée ici dans ce psaume comme procédant de Dieu et c'est une preuve de son amour pour le petit enfant. Jésus exprime ici sa confiance en Dieu son Père qui depuis sa tendre enfance a pris soin de lui. Maintenant, à l'heure de la détresse, il demande son soutien et sa présence. De nombreux taureaux m'environnent. Ces fortes bêtes de Bazan sont tout autour de moi. Ils ouvrent largement leur gueule contre moi. Ils sont comme un lion qui rugit et déchire. Versets 13 et 14. Les ennemis, autant les religieux juifs que les romains, sont comparés à des animaux féroces. Quant au Bazan, c'est une région agricole située à l'est du Jourdain qui était renommée pour ses pâturages. Je continue le psaume. « Je suis comme une eau qui s'écoule et tous mes os sont disloqués. Mon cœur est pareil à la cire. On dirait qu'ils se font en moi. » Verset 15. Il est évidemment impossible d'attribuer cet état à David, car c'est une description exacte de la condition physique d'un crucifié, ce qui est remarquable puisque cette forme d'exécution était inconnue des Juifs et même des païens. Elle n'est venue que bien plus tard, plusieurs siècles plus tard, dans l'Empire assyrien. « Je suis comme une eau qui s'écoule » est une référence à la transpiration du crucifié qui est desséché par le soleil ardent, à son sang et à ses forces qui le quittent. Les os sont disloqués parce qu'ils sortent des articulations sous l'effet du poids du supplicié une fois qu'il est à bout de force. On sait que Jésus est mort rapidement. Et la seule explication plausible est qu'il a choisi lui-même l'instant de sa mort et la cause physique fut l'éclatement du cœur. Le péricarde s'est alors rempli de sang et de sérum, ce qui correspond bien à ce que nous rapporte l'apôtre Jean qui écrit « L'un des soldats lui enfonça sa lance dans le côté et aussitôt il en sortit » du sang et de l'eau. Je continue le psaume. « Ma gorge est desséchée comme un tesson d'argile. Ma langue colle à mon palais. Tu me fais retourner à la poussière de la mort. Des hordes de chiens m'environnent. La meute des méchants m'assaille. Ils ont percé mes mains, mes pieds. » Versets 16 et 17. Dans les villes d'Orient, les chiens sauvages abondent et se jettent sur tout ce qui peut leur servir de pâture. Ce passage, comme les versets précédents, évidemment, ne peuvent absolument pas s'appliquer à David. Par contre, il s'applique parfaitement bien à Jésus entouré d'ennemis alors qu'il est sur la croix. « Je pourrais compter tous mes os, ils me regardent. Ils me toisent, ils se partagent mes habits et ils tirent au sort ma tunique. » Versets 18 et 19. pour bien faire sentir aux crucifiés qu'ils ne comptent déjà plus parmi les vivants, les soldats romains se partagent ses vêtements. Contrairement aux apparences, la tunique, c'est le sous-vêtement. Les Romains crucifiaient les condamnés tout nus. C'était une humiliation supplémentaire. Jésus s'est déjà comparé à un ver. Sur la croix, il est nu. Jésus a tout accepté. Il est descendu plus bas que terre, le plus bas possible. Il est descendu tout au fond du trou afin de nous y chercher. Afin de nous chercher, de nous prendre par la main, de nous tirer, de nous amener vers le Père, afin de nous revêtir de sa justice, afin que nous puissions paraître devant le Dieu trois fois saint. On trouve dans ce psaume tous les détails du calvaire, et cette crucifixion est accomplie par des hommes qui ne connaissent pas les Écritures et qui n'ont absolument aucun intérêt à ce qu'elles s'accomplissent, surtout pas les Juifs. Ce qui apporte la preuve irréfutable que les textes sacrés sont bien inspirés de Dieu. Mais toi, Éternel, ne reste pas si loin, ô toi, ma force, viens en hâte à mon aide, viens me sauver, délivre ma vie de l'épée, mon unique bien de la fureur des chiens, sauve-moi de la gueule du lion. Sauve-moi de la corne de la licorne. Oui, tu m'as répondu. Versets 20 à 22. Même dans sa dernière extrémité, l'union de Jésus avec son Père ressort dans cet appel poignant qu'il lui lance pour demander sa présence et son secours. La licorne est considérée comme un mythe. Sauf qu'on en trouve peinte dans la grotte de Lascaux, au milieu d'autres animaux tout à fait réels. Ici, dans le psaume 22, la corne de la licorne correspond à la croix. Jésus a probablement été crucifié sur un pieu, donc une seule pièce de bois. La croix, telle que nous la connaissons avec sa barre transversale, provient de la première lettre de la fausse divinité appelée Tammuz. Les païens portaient ce symbole hanté comme fétiche. Et quand ils ont été obligés de se faire chrétiens, sous peine de persécution, les églises du IIIe siècle, qui étaient déjà décadentes à cette époque, ont adopté le T de la fausse divinité Tammuz pour représenter la croix du Christ. Oui, tu m'as répondu, donc au verset 22, marque le tournant du psaume, car le ton de la deuxième partie est radicalement différent. L'action de grâce commence comme ça, soudainement, sans prévenir, comme c'est souvent le cas dans les prophéties, sans qu'on sache comment a été opérée la délivrance. Or, cette délivrance correspond évidemment à la résurrection qui libéra Jésus de la mort. Je proclamerai à mes frères quel Dieu tu es, je te louerai dans la grande assemblée. Verset 23. Ce verset est cité tel quel dans l'Épître aux Hébreux du Nouveau Testament, et Jésus dit ici qu'il proclamera la grandeur de Dieu dans le monde. Et comment cela s'est-il fait? Eh bien, par l'entremise des disciples, et c'est ainsi que s'est créée l'Église universelle. Vous qui respectez Dieu, célébrez-le. Descendants de Jacob, glorifiez-le. Descendants d'Israël, vénérez-le. Il n'a pas méprisé le pauvre en son malheur. Il n'a pas détourné son regard loin de lui. Non, il a écouté l'appel à l'aide qu'il lui lançait. Grâce à toi, je te loue dans la grande assemblée, j'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te révèrent. Que les malheureux mangent et qu'ils soient rassasiés, oui, qu'ils louent l'Éternel, ceux qui vivent pour lui, que votre vie dure toujours. Aux confins de la terre, tous les peuples du monde se souviendront de l'Éternel, tous ils se tourneront vers lui et toutes les nations se prosterneront devant lui, car l'Éternel est roi, il domine sur les nations. Voilà comment se passent les prophéties dans l'Ancien Testament. Ici, à partir de ce texte, nous sortons de la prophétie, car ces paroles cadrent avec la situation de David et avec la culture juive. D'abord, c'est Israël qui est mis en avant, puis la perspective s'élargit à tous les peuples de la terre qui finiront par reconnaître que l'Éternel est le seul vrai Dieu. Tous les grands de la terre mangeront et l'adoreront, et ceux qui s'en vont vers la tombe, ceux dont la vie décline, se prosterneront devant lui. Leur postérité à son tour servira l'Éternel et parlera de lui à la génération qui viendra après elle. Cette postérité publiera sa justice et elle annoncera au peuple qui va naître ce qu'a fait l'Éternel pour le salut des siens. Alors, vous voyez un peu comment fonctionne la prophétie. Ces versets 30 à 32 sont une référence au millénium. On passe de la croix en deux temps trois mouvements au millénium. Alors, à ce moment-là, même les grands de ce monde célébreront un culte à l'Éternel et la royauté du Christ qui sera instaurée sera reconnue sur toute la terre et de génération en génération. Voici ce psaume 22. Aucune expérience de la souffrance et de la délivrance divine n'a eu comme celle de la croix et de la résurrection de notre Seigneur une telle portée universelle. La proclamation dans le monde entier de l'Évangile à partir de la Pentecôte et la conversion de gens de toutes les nations constituent l'accomplissement de la vision grandiose d'avenir du psaume 22, de la fin du psaume 22. Et vous noterez à la fin du psaume 22, il est question de ce qu'a fait l'Éternel. Ce n'est pas mis en relief, mais c'est toujours comme ça dans les prophéties, il faut aller le chercher, ce qui est important. Ce qu'a fait l'Éternel, c'est l'œuvre du Christ sur la croix. C'est ça, l'œuvre de Dieu. L'œuvre, la pièce maîtresse de Dieu. Son œuvre par excellence, ce n'est pas vraiment la création. Ça, c'était facile pour lui. C'est la croix. Ça, ce n'était pas facile pour Dieu. Ce qu'a fait l'Éternel, c'est l'œuvre du Christ sur la croix. L'homme se glorifie de tous ses accomplissements. Aujourd'hui, le CERN célèbre le cyclotron. Et puis, il y a aussi Tintin qui est allé sur la Lune. Mais on s'en fout. Ce qui compte pour nous, c'est ce qu'a fait l'Éternel. Et ce qu'a fait l'Éternel, c'est l'œuvre de la croix. C'est notre ticket pour entrer dans le royaume des cieux. Ce qu'a fait l'Éternel, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui l'a réalisé sur la croix. Les dernières paroles de Jésus-Christ sur la croix, tetelestai, c'est un seul mot en grec qui est traduit dans nos Bibles, tout est accompli. C'est ça. L'œuvre de l'Éternel est parfaite. Parfaite, il a tout accompli. Le salut réalisé par Dieu en Jésus-Christ, il est clé en main. Dieu ne veut pas que nous bricolions notre salut nous-mêmes avec un peu de bonnes œuvres, quelques rites. Il y a il y a les sacrements peut-être, un peu de superstition, une médaille, un Saint-Christophe. Jésus a subi la croix pour moi afin que je n'aie jamais à m'écrier « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché, qui enlève le vôtre, qui enlève le mien. Il a parfaitement accompli l'œuvre du salut. Il a triomphé de la mort et il nous offre la vie éternelle que je ne peux ni mériter ni gagner. Je ne peux rien faire. Je dois l'accepter comme un don de sa miséricorde, un don généreux de sa part. Parce que tout est accompli. Voilà, frères et sœurs, réjouissez-vous avec moi, car tout est accompli. Amen.
Bonjour à toutes et à tous. Merci à Jacques pour ce que tu nous as partagé. Merci pour le partage de ton amour de la parole qui nous, et puis le fait de nous montrer ces perles qui sont dans la Bible. Moi, je ne sais pas pour vous, pour moi personnellement, ça m'encourage. Ça m'encourage de voir un petit peu toute la puissance de la prophétie, ce que David a écrit environ 1000 ans avant que le Christ ne vienne, sur ce qu'il a écrit, sur ce qui était sa vie, sur la venue de Christ. Et puis sur notre espérance aussi qui est devant. Merci. Je partage avec vous les annonces de la semaine. Lundi, donc demain, la commission de travaux se réunit à 19h30, entre autres pour préparer l'assemblée de membres qui aura lieu le 15 octobre, donc 2 semaines après. Mardi 1er, l'étude biblique, toujours sur le thème de Néhémie. Donc, d'une part, la suite de l'étude des différentes portes, mais aussi, et c'est là un sympathique petit clin d'œil de notre Seigneur, une vue d'ensemble peut-être du livre de Néhémie pour préparer le séminaire de samedi, puisque samedi nous avons, de 9h30 à 18h30, le séminaire sur la prière communautaire avec Yann Newberry. Donc la suite du premier séminaire qui a été donné en tout début d'année et qui sera basé entre autres sur le livre de Néhémie. Alors moi je vous invite déjà à venir mardi pour préparer la rencontre de samedi, le séminaire de samedi. N'hésitez pas encore à vous inscrire, il y a de la place. C'est important de s'inscrire puisqu'il faut les cahiers pour pouvoir suivre le séminaire. Si toutefois quelqu'un était gêné par le prix du séminaire, venez nous trouver. Il ne faut pas non plus que la question financière soit un empêchement pour participer à ce séminaire. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, il y a encore la feuille au fond de la salle. Il y a aussi la possibilité de s'inscrire par le biais du site sur Internet. Samedi, le groupe de jeunes s'est réuni aussi à 20h30. Dimanche, thé café à 9h30. On a vu ce matin comme ce moment est vraiment sympathique. Et puis le culte qui sera, dont le message sera apporté par Yann. Peut-être un petit peu en avance, le samedi d'après, c'est juste club d'enfants, ouais, le 12. Donc c'est important aussi d'y penser, de pouvoir communiquer ces informations aux enfants que vous pouvez inviter. Il y aura les flyers au fond. Super, merci. On peut, concernant la vie des uns et des autres, on peut continuer de penser à Jacques et Guylaine, et j'imagine qu'ils vont bientôt rentrer. Continuons de penser aussi à Raymond, qui reste malgré tout passablement bloqué à la maison, j'imagine. Continuons aussi de penser et de prier pour Jean-Michel et Anna. C'est important aussi de nous soutenir les uns les autres dans la prière. Je vous invite à vous lever pour clore notre culte. Et j'ai à cœur de vous lire les deux derniers versets du psaume 24. Donc, deux psaumes après, et c'est un psaume qui est aussi un psaume prophétique, qui nous parle de la gloire de Christ, le roi de gloire. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. S'il faut élever les portes, c'est parce que le roi de gloire, il est grand. Il a besoin de grandes portes. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel. L'Éternel, le maître de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Amen. Bonne semaine, bon dimanche à chacun.